Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Marie-Annick au 3921. Bonsoir Marie-Annick.
Bonsoir Olivier, enchantée.
Enchantée. D'où nous appelez-vous Marie-Annick ?
Alors je suis bretonne et je vous appelle de Rennes.
De Rennes, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
Alors j'ai 64 ans.
D'accord. De quoi allez-vous me parler Marie-Annick ?
Alors j'ai été sollicitée par une collaboratrice, Julia, parce que j'ai écrit un livre sur ma carrière professionnelle. Et il semblerait que ça intéresse certaines personnes. Donc j'ai accepté d'échanger avec vous ce soir pour vous parler de la prison.
D'accord, je vous écoute. Voilà. La prison en fait dans laquelle vous avez, dans le milieu carcéral où vous avez travaillé ?
Oui, c'est cela, oui. J'ai travaillé pendant 37 ans au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. J'ai débuté ma carrière en 1980 en qualité de surveillante et j'ai terminé ma carrière en qualité de majeure pénitentiaire, toujours au sein de ce même établissement, avec différents parcours internes bien évidemment, mais tout en étant en proximité des détenus, puisque j'avais fait ce choix-là. J'avais choisi de rester en proximité avec les détenus pour pouvoir participer à leur parcours d'exécution de peine.
D'accord. Je suppose que ça a dû être très enrichissant pour vous, cette carrière professionnelle, à plein de niveaux.
Ça a été surtout très riche en échanges auprès de ces femmes, avec beaucoup d'interrogations, puisque lorsqu'on travaille dans un milieu aussi particulier, on peut se poser au départ, lorsqu'on ne connaît pas, bien évidemment, on peut se poser des questions qui sont quand même intrigantes. On se demande qui on va avoir devant soi, oui. On a la peur aussi qui s'installe. Hein, lorsqu'on a 21 ans et qu'on rentre en prison, on ne rentre pas la fleur au fusil, hein, on se pose beaucoup de questions. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'en face de nous, on a souvent Madame Tout-le-Monde.
Justement, remontons le temps un peu, si vous le voulez bien, Marie-Annick. Et allons jusqu'au début de cette carrière, en fait. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette carrière ? Comment ça, elle débute, cette carrière ?
Bah, elle débute par un concours administratif.
Oui, mais par choix, en fait. Vous vouliez être surveillante, en fait. J'ai cru comprendre qu'au début, vous vouliez être infirmière psy.
Voilà, c'est ça. Je voulais être infirmière en psychiatrie et j'avais obtenu aussi ce concours à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et dans cette même année, j'avais également passé le concours de l'administration pénitentiaire et j'avais également été reçue. Ce qui m'a fait prendre la pénitentiaire, c'est peut-être le mystère derrière les grands murs et les hauts murs. Enfin, on pourrait dire la même chose de l'hôpital psychiatrique,
oui,
mais à la limite, dans un hôpital psychiatrique, vous avez quand même libre entrée. Si vous avez envie de visiter un malade, vous pouvez le faire sans trop de contraintes, je dirais.
Oui.
Tandis que pour rentrer en prison, on ne rentre pas dans une prison comme on rentre dans un hôpital.
Non, puis dans la prison, dans le concept d'emprisonner les gens. On a cette privation de liberté qui vous est imposée. Alors, on pourrait faire un parallèle aussi avec l'hôpital psychiatrique, mais ça n'est pas pour la même chose, bien évidemment. On passe un moment dans un hôpital psychiatrique, on y est soigné, on s'occupe de nous, ce qui n'est pas la même chose, je suppose, dans le milieu carcéral, en fait. Alors, est-ce que vous faites une différence entre le milieu carcéral des hommes et celui des femmes ?
Oh bah tout à fait, puisque le milieu carcéral féminin n'est représenté à l'heure d'aujourd'hui que de 3,5%. Donc vous imaginez bien que les femmes sont un peu l'ombre de la République, hein. tant le personnel de surveillance, parce que là aussi je voudrais quand même en parler du personnel de surveillance.
Vous êtes là pour ça. Est-ce que ce chiffre de 2882 femmes aujourd'hui, sur un total de 84 022 personnes écrouées, au moment où on se parle. En tout cas, ce sont les chiffres qu'on m'a donnés au 1er décembre 2021. Fait que les prisons pour femmes, en tout cas les quartiers de femmes, sont les parents pauvres du milieu carcéral.
Bah, tout à fait, tout à fait. Puisque le ministère de la Justice, moi j'ai travaillé jusqu'en 2017, hein, donc le constat dont je vous parle, je m'arrêterai à 2017. J'ose espérer qu'entre 2017 et aujourd'hui, les choses ont évolué. Mais
pas
je dis souvent, j'en suis pas sûre moi non plus, mais je fermerai la parenthèse. Mais donc jusqu'en 2017, le constat que l'on faisait, c'est que les femmes étaient très souvent oubliées dans leur parcours d'exécution de peine. Un exemple, le choix professionnel. Dans les prisons d'hommes, les hommes arrivent à faire des formations tout à fait adaptées qui leur permettent de se réinsérer, voire de s'insérer pour certains. Hein. Chez les femmes, vous savez, c'est très limité les formations. Elles ouvrent peu de portes. Il faut vraiment que la personne détenue femme, elle a vraiment envie de s'en sortir pour trouver son chemin, je dirais. Donc, les femmes sont oubliées. D'où l'intérêt d'en parler et d'où l'intérêt de ce livre que j'ai voulu écrire et que j'ai écrit d'ailleurs avec Maria Poblette, parce que je sentais que elles sont beaucoup trop souvent oubliées.
Ah ben elles sont, on n'en parle jamais pratiquement. On en parle quand il y a une affaire grave, hein, et qu'il y a une femme qui est incarcérée. Et encore, on n'a pas de plongée dans le milieu carcéral des femmes. Je crois qu'il y a eu, il y a 2 ans ou 1 an, un documentaire sur justement la prison de femmes de Rennes. Je me rappelle que Marie Drucker devait être à l'origine de ce documentaire, ou en tout cas elle y participait, soit en tant que productrice. Oui. Mais je sais qu'il y a eu... parce qu'il y a aussi quelque chose en France qui est regrettable, je dirais. C'est que, au nom du fait qu'on ne veut pas stériliser les détenus, on ne donne pas la parole aux détenus.
Je dirais quand même que depuis quelques temps, je dirais qu'on leur donne quand même la parole à travers justement des reportages. Il y a eu un très beau reportage.
Vous ne voyez jamais leur visage.
Si. Bon. Monsieur Éric Lemasson, qui est réalisateur, qui travaillait pour TF1, a fait un très beau reportage où les visages des femmes étaient découverts. Elle le souhaitait d'ailleurs. Elle s'était engagée
C'est récent, ça, non?
Mais c'est récent, c'est 2017.
Oui, et puis il y en a eu un de temps en temps. Si vous regardez bien tout ce qui se fait sur la prison aujourd'hui en France, en tout cas, on ne voit jamais les visages des détenus femmes ou hommes. Ce qui fait qu'il y a toujours une méfiance vis-à-vis de ce milieu. Et je trouve que le fait de traiter à chaque fois les journalistes comme le ministère le fait, c'est-à-dire en ne voulant pas montrer le visage des détenus, ne pas les stériliser, ça évite... finalement, ça installe une espèce de distance entre le public et le milieu carcéral, qui fait que, en France, je trouve que les Français ne se préoccupent pas vraiment des conditions de détention des hommes et des femmes, en règle générale. Alors que je trouve que c'est très important, ça devrait être très important de s'en mêler, que les conditions de détention soient beaucoup plus humaines aujourd'hui, et que la prison soit un endroit où on ressort avec un projet, avec peut-être des années derrière soi de détention, mais où on a appris des choses, où on s'est occupé de se réinsérer, plutôt que, pour moi, de mon expérience personnelle, 95% des détenus que je rencontre sortant, sont en compte avec la République. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Et je m'explique, en compte avec la République, pour que tout le monde comprenne bien, c'est que les gens qui sortent de prison ont l'impression d'en avoir mangé et qu'ils sont en compte, c'est-à-dire que la République leur doit quelque chose, parce qu'ils en ont tellement bavé, en fait, en détention, que souvent, ça fait que... on refait des bêtises, on replonge.
Mais Mais ça, c'est votre position, mais elle n'est quand même pas à 100%. Parce que vous avez aussi, malheureusement, j'en ai rencontré, et je parle en leur nom, vous avez aussi des personnes détenues qui, le passage par la case prison a été bénéfique. Et ça, je suis obligée de vous le dire, puisqu'elles me l'ont dit.
Donc, je ne vous dis pas que... j'ai la science infuse, je vous parle de mon expérience, de gens que j'ai rencontrés. Ça ne veut pas dire que ce sont tous les gens.
Ouais. Et heureusement... Moi, j'ai rencontré des femmes qui franchement, en prison, se retrouvaient elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient sous emprise, parce que leur vie était chaotique, parce qu'elles étaient mal dans leur vie, et que la prison, ça a été un sas où elles ont pu récupérer.
Alors justement, Marie-Annick, puisque vous êtes là ce soir pour en parler, on va marquer une pause. Et justement, je trouve intéressant de vous avoir parce que votre livre, Au cœur de la prison des femmes, aux éditions Talendier, évoque le milieu carcéral féminin. Et je pense qu'il est radicalement différent de celui des hommes, vous me l'avez dit au début. Et je pense même que les femmes mettent un sens différent dans la peine qu'est la leur. Donc, après la pause que l'on fait maintenant, vous allez nous en parler, d'accord ?
Oui, bien
sûr. À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h24, vous êtes sur Europe 1 et c'est la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin. Marie-Annick, au contact de ces femmes, qu'avez-vous remarqué justement comme grande différence dans justement ce que ces femmes vivaient lorsqu'elles arrivaient en prison et ce qu'elles faisaient de cette peine ?
Moi, ce que j'ai remarqué sur du long terme, c'est la solitude des femmes. À savoir que les visites au niveau des parloirs étaient vraiment très limitées. Elles étaient très vite abandonnées, je dirais.
Oui.
C'est la différence avec les hommes, où dans les prisons d'hommes, on voit toujours une femme, une mère, une sœur, enfin un membre de la famille venir voir cet homme. Chez les femmes, c'est souvent des histoires, enfin moi ce que j'ai vécu, parce que j'ai travaillé auprès des très longues peines hein, au centre pénitentiaire de Rennes, ce que j'ai constaté dans les histoires intrafamiliales, ces femmes-là qui ont commis un acte grave, hein, où il y a des victimes, et il ne faut pas oublier les victimes non plus, hein, et ces femmes-là, elles sont très vite abandonnées, et très vite esselées, et c'est souvent seules qu'elles affrontent leur condamnation et avec beaucoup de culpabilité, surtout quand il s'agit d'un drame sur un enfant, quoi.
Oui, oui. Vous avez été au contact de ces femmes durant plus de 20 ans, hein, c'est ça à peu près ?
37 ans.
37 ans.
Oui.
Pour vous, la prison a un réel rôle ? En tout cas, elle agit différemment sur les femmes que les hommes.
Je pense que oui. D'abord, chez les femmes, le taux de récidive est quand même moins important.
Bien moins.
Que chez les hommes.
Bien moins.
Oui, vous avez raison. Donc, je me dis que c'est quand même la différence entre un homme et une femme. Le grand banditisme, il existe aussi chez les femmes, hein, je ne vais pas vous dire qu'il n'existe pas, mais il est quand même moindre que chez les hommes. Donc les délits et les crimes sont complètement différents quand même.
Mmh. Quel souvenir vous gardez ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce que vous racontez dans votre livre, l'histoire de certaines rencontres que vous avez pu faire en prison, quelles sont celles qui vous ont les plus marquées et pourquoi ?
Alors, j'ai fait de très belles rencontres, et ça va peut-être choquer certaines personnes, mais ça m'est égal, je dis les choses, donc très très clairement, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai rencontré des gens malgré leur passage à l'acte, et puis malgré ce qu'elles avaient commis de très grave, ça restait pour moi des personnes, et j'ai fait de très belles rencontres. Par contre, j'ai fait de moins belles rencontres quand même, et j'ai aussi rencontré des gens avec qui j'ai eu beaucoup de mal parce que j'arrivais pas à me mettre en distance par rapport aux victimes, Peut-être parce que la télé en parlait de trop, la presse, il y avait trop de choses autour de ce personnage-là qui était très, très médiatique. Pas ces personnages, parce qu'il n'y en avait pas qu'un. Mais je pense à une personne, entre autres, et ça me dérangeait beaucoup. J'ai été dérangée par certaines personnes.
Oui, vous faites allusion à des détenues dont, en tout cas, ce pourquoi elles étaient en prison faisait d'elles des détenues un peu célèbres. C'est ça ?
Oui, un peu célèbre, mais bon, là, une célébrité qui n'est pas vraiment de belle qualité, je dirais.
Ah ben non, non.
Loin de là. Hein.
N'oublions pas que pour se retrouver en prison, ouais, c'est pas parce qu'on a voulu deux carambars, quoi. C'est,
non, pas du tout. Hein, pas du tout.
Vous vous êtes retrouvée avec des sacrées clientes, quand même. Hein.
Oui, donc, oui, des clientes qui avaient quand même laissé des traces, et puis, c'est les victimes que l'on voyait à la télé, et c'était franchement douloureux, je me disais, mais franchement, comment on peut arriver à faire des choses comme ça, quoi, même si le surveillant n'est pas là pour juger, les tribunaux sont là pour juger les gens, nous, le personnel de surveillance, on est là pour accompagner la personne détenue dans le parcours de son exécution de peine.
Justement, on va marquer une nouvelle pause et justement, on va venir sur justement cette confrontation, votre mission et justement le contact que vous avez pu avoir avec certaines personnes dont vous connaissiez l'origine de la détention, pourquoi en tout cas elles étaient là et à savoir comment vous vous comportiez, est-ce que c'est facile ou pas de tisser un lien avec quelqu'un dont on sait qu'il a fait des horreurs. Mais on se retrouve dans quelques secondes, Marie-Annick, à tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
23h30 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Marie-Annick,
oui.
Quel rapport vous aviez justement avec ces détenues dont vous vous êtes occupé pendant plus de 37 ans ? Est-ce que, tout d'abord, quand elles arrivaient en prison, vous saviez pourquoi elles y étaient ?
Lorsque vous êtes surveillante, non, quand on est surveillant, on ne sait pas. C'est plus la presse ou Internet aujourd'hui qui nous informe. Par contre, lorsque vous êtes dans l'encadrement, ce qui était mon cas, je savais puisque je recevais les détenus, ce qu'on appelle les arrivants. Hein, donc, je recevais les arrivantes et je connaissais, oui, leur mandat de dépôt et le pourquoi elles étaient là.
À chaque fois, est-ce que les surveillants sont au courant à chaque fois
Non, les D'accord. surveillants ne sont pas au courant. Si les surveillants ne vont pas à la recherche du pourquoi, ils ne le savent pas.
Mais s'ils cherchent, ils trouvent.
S'ils cherchent, ils trouvent. Mais aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, vous tapez un nom sur la barre de recherche Google et vous avez la réponse. Oui. Donc, moi, j'ai travaillé sans Google quand même pendant des années. Donc, je lisais la presse écrite et je voyais aussi ce qui se passait pour ces femmes-là. Mmh.
Mais les détenues entre elles n'ont pas Google. Est-ce qu'elles cherchent entre elles à savoir ça ?
Mais
est-ce que c'est important en prison ?
Mais bien sûr que c'est très important pour elles, parce que ça leur permet de se déculpabiliser par rapport à l'autre. L'autre a fait pire que moi, donc il est plus méchant que moi. Vous voyez ce que je veux dire ? On se déculpabilise sur l'autre pour essayer de rester debout, en fait. Et combien de fois on disait, mes collègues et moi, on leur disait... Quand elle nous disait, bah oui, mais vous avez vu un tel ce qu'elle a fait. Mais s'il vous plaît, madame, oui, un tel a commis un acte grave. Soit, j'entends, mais vous n'êtes pas là pour rien. Vous voyez, il fallait constamment remettre les choses à leur place quand même.
Est-ce qu'il y a une hiérarchie, justement, qui s'installe entre les détenus comme ça ? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que certaines essaient de prendre un peu le lead ?
Le dessus. Ben bien sûr, c'est comme... vous savez, la prison, c'est le reflet de la cité. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est le reflet de la cité. Ben bien sûr que c'est le reflet de la cité. Vous avez les gens qui les caïdes, et puis vous avez ceux qui acceptent de se plier aux règles du caïd, et vous avez ceux qui n'acceptent pas et qui rentrent en conflit. Et le personnel doit observer, doit essayer de dénouer les situations conflictuelles. Et laissez-moi vous dire que le métier de surveillant, ce n'est pas un métier facile du tout.
Justement.
Et c'est là où je vais rebondir.
Oui.
Et c'est là.
Allez-y.
Et c'est là que je vais rebondir. Parce que le métier de surveillant, Aujourd'hui, on en entend peu parler, voire pas du tout.
Non, on n'en entend pas parler.
Pas. Sauf lorsqu'il se passe quelque chose de grave dans une prison. Alors là, on sait nous dire, et je l'entends régulièrement, c'est la faute du personnel. C'est souvent la faute du personnel, hein, évidemment. Mais on n'entend pas parler du personnel de surveillance. Le personnel de surveillance est la troisième force de l'ordre de la République. On entend parler des gendarmes, on entend parler des gardiens de la paix, on entend parler de la police, toutes les personnes qui portent l'uniforme. Moi, j'ai porté l'uniforme de la République, avec fierté.
De votre point de vue, est-ce qu'on fait attention aux surveillants en règle générale ?
Mais non. C'est d'ailleurs pour ça que ma parole, elle est libre ce soir et elle sera libre jusqu'à la fin, parce que je trouve que le personnel de surveillance est complètement oublié, alors que ce personnel de surveillance, il est le dernier maillon. C'est quand même lui qui reçoit la personne qui sort de la cité, qui commet des actes graves. Elle va où cette personne? Elle va en prison. Et son comportement, il est exactement le même que dans la cité, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le bleu, on sait pertinemment qu'ils détestent les uniformes, ils sont insultants, ils sont menaçants, et je vous passe les détails. C'est ça, aujourd'hui.
Bah justement, c'est une profession difficile. Hein,
la profession est en souffrance.
Avec des salaires vraiment qui ne sont pas à la hauteur de la pénibilité de la mission. De plus, j'ai envie de vous dire que peut-être que votre ministère s'arrange très bien de cette situation, qu'on ne parle pas beaucoup de vous, parce que finalement, vous aussi, vous êtes à l'abri des murs. Vous aussi, vous êtes entre les murs et que vous êtes invisible.
Oui, les invisibles de la République.
Exactement.
Les invisibles de la République, tout à fait. Et quand on commence à en parler un petit peu, on dérange. Donc, il s'arrange pour que ça... C'est un peu l'omerta, je trouve.
Oui, mais vous êtes là ce soir. Dites un petit peu comment ça se passe. Parce que, bien évidemment, moi j'ai certains retours hein, de certains surveillants que je connais aussi. Parce que tout le monde vient me parler, moi. J'ai cette chance. Mm-hmm. Et certains surveillants me disent qu'au-delà de la pénibilité de la fonction, hein, des heures... l'énorme responsabilité qui pèse sur leurs épaules, parce que parfois responsable de plus d'une centaine de détenus pour un surveillant, voire 120, 150 détenus, entre les tentatives,
par exemple, à la santé,
un peu partout en France, entre les tentatives d'intimidation de caïd, du grand banditisme ou de caïd tout court, hein, des petits caïds qui essaient de mettre la pression. Les surveillants sont sans cesse dans un milieu violent, angoissant,
anxiogène. Oui,
vous,
oui.
Dans le milieu des femmes, est-ce que vous viviez la même chose ? Parce que finalement...
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Pas du tout, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais cherché à aller dans un établissement
vous
pour hommes.
Vous auriez pu aller du
bien
côté
sûr,
homme
mais bien sûr, j'ai des tas de collègues qui travaillent en milieu masculin.
Oui, vais vous dire, moi j'ai jamais compris ça, parce que je trouve que c'est extrêmement compliqué, dangereux de mettre des surveillantes femmes dans un milieu carcéral d'hommes.
Écoutez, c'est pas les retours que les professionnels renvoient.
Alors, je vous dis pas, quels sont les retours, justement ?
C'est pas du tout les retours qu'on a, parce que, justement, le fait de travailler en mixité a apaisé certaines situations.
D'accord.
Ce qu'on a comme retour. Mmh. Et des deux côtés. Alors, moi, j'ai travaillé dans les années 80 uniquement avec des femmes. Et en 86, donc Madame Herzati, qui était directrice de l'administration pénitentiaire à l'époque, avait accepté que des hommes viennent travailler chez les femmes. Et j'ai connu donc l'arrivée des hommes gradés. Hein, c'était au stade dégradé.
Oui.
Et écoutez, franchement, ça a été très positif. Et moi, le travailler en mixité, pour moi, ça a été que du positif.
D'accord.
Ouais,
que du positif pour le personnel, mais pour les détenus, ça...
Mais pour les détenus, ça dépendait. Vous avez des détenus qui ne pouvaient pas parler d'un problème personnel à un homme, parce que ça leur renvoyait à plein de choses, et vous imaginez bien, soit un mari violent, soit un père violent, soit un regard masculin dérangeant, enfin.
Ou en tout cas, mais interprété comme tel.
Elle le disait, je peux pas, moi j'ai besoin de parler, mais je veux que ça soit une femme. Donc, le centre pénitentiaire de Rennes avait instauré ce qu'on appelle le binôme homme-femme.
Oui.
Hein, moi, j'ai été responsable de bâtiment avec un homme, et vous aviez des détenus qui refusaient catégoriquement de s'adresser à un homme pour des problèmes précis. Hein. Je dis pas qu'elle en parlait pas, loin de là. Hein. Mais bon, il y avait des situations qu'elle préférait discuter avec une femme, ce que je comprenais d'ailleurs.
La prison de Rennes, la prison de femmes hein, de Rennes, est plutôt un exemple hein, en la matière, me semble-t-il.
Oui, c'est une vitrine, c'est une très belle vitrine, parce qu'il se passe beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses à tout point de vue d'ailleurs, hein, point de vue culturel, point de vue travail, point de vue, on a quand même reçu des détenus médiatiques, et aujourd'hui il se passe aussi des choses, puisqu'il y a une direction qui met en place... certaines choses, et c'est tant mieux d'ailleurs, il faut que les choses évoluent le mieux possible.
En tout cas, si le milieu carcéral pouvait ressembler à ce qui se fait à la prison de femmes de Rennes, je pense que tout le monde s'en porterait mieux, les détenus,
comme le milieu des
surveillants pénitentiaires. Globalement, vous qui avez passé 37 ans dans ce milieu, on est d'accord que le milieu carcéral n'est pas à la hauteur du panache de la France.
Loin de là.
Vous avez pu aller dans d'autres prisons, Marie-Annick ?
Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre de prisons. Oui.
Votre point de vue, quelles sont celles qui sont encore... Alors, je ne vais pas vous demander de les nommer, parce que même si vous êtes à la retraite aujourd'hui et que votre parole est libre, bon... Vous avez sans doute des collègues encore dans le milieu.
Oui, j'ai quand même... il y a des choses que je ne dirais pas.
Mais est-ce que vous êtes arrivé d'être choqué par certaines prisons, par les conditions de détention ?
Par la vétusté, oui. J'ai été choqué. Mais j'ai aussi vu des belles choses. J'ai vu Casabianda en Corse et j'ai trouvé que c'était très bien. Donc, tout se mélange un peu, là. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est la vétusté et puis la saleté. C'est pas la vitrine de la République, ça, la saleté.
Mais
en
si
prison,
vous allez sur TikTok, il y a beaucoup de comptes de détenus aujourd'hui avec ce.
Oui.
Parce qu'on sait que, voilà, visiblement, les téléphones, maintenant, c'est interdit en milieu carcéral, mais il faudra m'expliquer le concept de l'interdiction des téléphones en milieu carcéral. si vous avez envie de voir comment ça se passe. Dans les prisons françaises, vous allez sur TikTok, vous tapez détenu, vous tapez prison française, et puis, c'est certain que là, on se retrouve, on voit hein, ce qui se passe, comment ça se passe ? Pas trop, parce que je pense que c'est compliqué, mais en tout cas, on voit la vétusté dont vous parlez, on voit la saleté, on voit, et c'est vrai que les images que l'on peut découvrir sur TikTok, on ne peut avoir que le réflexe de dire mais quelqu'un qu'on met là-dedans, comment voulez-vous qu'on le réinsère après ? Comment voulez-vous que le gars, il est pas... Il dise mais
on prend pour un
animal à me mettre là-dedans, quoi. Et c'est bon pour n'importe quel homme. Alors, pour les femmes, je vais vous dire, je connais moins. Et puis, il y a, au même titre que vous avez dit que les détenues femmes... mettaient du sens dans leur... pas la majorité, mais en tout cas beaucoup d'entre elles, visiblement. Et puis, c'est de la nature des femmes fait que... C'est vrai que j'étais il y a 15 ans à la prison de Perpignan. Je faisais un numéro dans les yeux d'Olivier. C'était la première saison qui s'appelait Au pied des murs. Et j'ai passé une semaine à Perpignan avec l'association qui s'occupait de l'accueil des détenus. Femmes et hommes, hein, puisqu'il y avait les deux.
Oui, bien sûr. Oui.
Je peux vous dire qu'il y avait, personne qui visitait les femmes. Elles étaient seules. Elles étaient comme vous nous l'avez dit au début de votre intervention.
Bien sûr.
Y a, on n'en parle jamais, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas trop vous en parler, parce que, finalement, peu de choses émergent. Il n'y a que la prison de Rennes. Là, on la voit, elle est formidable, les conditions de détention. Mais finalement, je suis allé à Fleury, il y a 30 ans, quand je bossais pour de Chavannes, pour Ciel Montmardi, j'avais été visiter la prison de Fleury, femme. Moi, je peux vous dire que je n'en garde pas un souvenir extraordinaire. Et c'était il y a 30 ans.
Oui.
J'avais trouvé que pour les femmes, les conditions de détention étaient très dures, déjà, quoi.
Donc, oui, certainement, certainement. Il y a 30 ans, oui, c'était certainement très dur, mais je pense que ça s'est aussi
amélioré.
Oui, je pense.
Ah, vous pensez que Fleury, il y a eu des travaux et tout ça, ou parce que
oui, mais parce que Fleury, déjà, il y a, sur Fleury, vous parlez d'il y a 30 ans, oui. Mais sur la région parisienne, il y a eu d'autres prisons,
d'ouvertes.
Des quartiers femmes qui se sont ouverts.
Oui,
donc ça a délesté un peu toute cette population pénale, parce qu'il y avait une surpopulation pénale à Fleury. Hein. Donc ça a dû délester un peu, et le fait d'avoir moins de détenus, on peut travailler quand même dans de meilleures conditions, je pense. Tant pour les détenus que pour les personnels.
J'en profite pour citer Mamie Tam Tam, qui est là ce soir encore, qui nous dit qu'elle a été visiteuse de prison à Clairvaux, dans l'Aube. Et Mamie Tam Tam, j'ai eu l'occasion de tourner justement avec les sœurs que vous avez dû rencontrer si vous étiez visiteuse à Clairvaux. Les sœurs qui accueillaient les familles des détenus. Deux formidables petites sœurs qui avaient un cœur... enfin, en tout cas, de personnes qui m'ont profondément marqué. Et donc, on pouvait converser, bien évidemment, avec les familles des détenus. Et cette prison, Mamie Tam Tam, est fermée depuis, hein, puisque Clairvaux était la plus vieille prison de France, comme Losles-les-Lilles, qui a fermé aussi. Le programme du gouvernement actuel et puis des gouvernements qui viendront, c'est bien sûr de fermer les vieilles prisons. Hein. Elles sont encore nombreuses en France, mais bon, le projet, c'est de faire des nouvelles prisons pour que les gens y soient mieux.
Est-ce que construire des prisons répond complètement à la demande ? Est-ce que c'est un objectif qu'il faut atteindre ? J'en sais rien.
Ah bah changer les conditions de détention des prisonniers, moi je pense que oui. Il faut construire de nouvelles prisons où, au moins, on doit accueillir les détenus dans de meilleures conditions. Mais bon, ça, c'est un autre débat et je pense que c'est peut-être pas le lieu ici d'en parler.
Non, mais si c'est pour construire des prisons à 800 places, non, c'est pas non plus l'objectif.
Pourquoi rien ça, c'est trop, 800 places ?
Rien ne vaut les petites structures où on peut faire du bon boulot, quoi, à mon avis.
Et 800 places, c'est petit, hein, Marie-Annick.
Ben, moi, je trouve que c'est déjà grand. Hein.
Oui,
qu'on a à Rennes-Vezin, là, je trouve que 800 places, c'est déjà pas mal. C'est une usine à gaz, quand même.
Mais comme nous l'avons évoqué durant votre témoignage, la prison n'est pas la première des priorités des politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, depuis des années.
Mais
donc, on est encore pendant de longues années à avoir des conditions de détention qui feront, n'oublions pas, que tant qu'on accueillera les gens qui doivent, parce qu'ils ont été condamnés à juste titre, pour la grande majorité d'entre eux, mais qui doivent exécuter une peine de prison, mais qu'elle est exécutée dans des conditions déplorables, je pense qu'on aura, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, et on aura des soucis. Merci en tout cas.
Il ne faut jamais perdre de vue, si vous permettez, qu'un détenu condamné, une fois qu'il a fait sa peine, il sort et il devient un citoyen. Et il vit avec la cité. Donc ça veut dire qu'il va sortir, ce détenu. Donc pour qu'il sorte debout, il faut lui donner les moyens de s'en sortir aussi à l'intérieur.
Exactement. Mais c'est ce que je vous disais, pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Vous qui avez l'air de connaître la prison de Perpignan, par exemple, quand on sort de la prison de Perpignan, on est en compte parce que se retrouver dans des cellules qui contiennent 4 et on est 8 dedans, vous parliez tout à l'heure que ça rendait fou. Oui, ça rend fou de rage.
Bien sûr que ça rend fou.
Et qui ramasse à la sortie, ce sont les citoyens. Parce que celui qui est en rage, il ne va pas aller s'attaquer au ministre ou vous voyez ce que je veux dire ? Il va aller s'attaquer à monsieur, madame, tout le monde. Faites partie, dont nous faisons partie. Donc nous devrions nous préoccuper plus des prisons. Mais c'est un long débat et on va devoir conclure, ma chère Malalik, pour vous souhaiter une bonne soirée. Rappelez que vous avez écrit donc Au cœur de la prison des femmes aux éditions Talendier et que voilà, et que si vous avez envie d'en savoir plus sur les conditions de détention des femmes et sur la vie de Marie-Annick, vous pouvez vous fournir Au cœur de la prison des femmes. Merci mille fois et passez une bonne soirée, Marie-Annick.
Merci beaucoup, Olivier. Bonne continuation.
Merci, au revoir.
Au revoir.